Bonjour mes frères et mes sœurs. Comment connaissons-nous la vie du Christ? Principalement par les quatre évangélistes qui chacun ont décrit ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont entendu en ce qui concerne le Christ. Mais pourquoi y a-t-il quatre versions différentes? Autrement dit, vous avez Matthieu qui parle de certaines choses, Luc de même, Marc de même, Jean de même. Et certaines personnes, certains chrétiens même, trouvent des contradictions dans ces récits. Le fait est qu'il n'y a pas de contradictions dans la Bible. Mais alors direz-vous, pourquoi y a-t-il des différences? Eh bien, laissez-moi vous expliquer une chose. Vous allez à une conférence, vous écoutez, ensuite vous racontez à quelqu'un ce que vous avez entendu lors de la conférence. Vous mettez l'accent sur quelques points principaux. Quelqu'un d'autre peut mettre l'accent sur d'autres points. Mais il n'y a pas de contradiction. Voilà pourquoi, d'une façon générale, les quatre évangélistes racontent la même chose et certains d'entre eux, ou bien un ou deux d'entre eux, mettent l'accent sur un certain point. Comprenez-vous? Et surtout, dans le cas des quatre évangélistes, Matthieu, Marc, Luc, Jean, ce qu'il y a d'important, c'est que chacun d'eux a fait son rapport, a écrit son évangile sous l'inspiration divine. C'est ça qui fait la différence. Si vous allez à une conférence, comme j'ai dit, vous pouvez parler de votre propre chef, mais vous n'êtes pas vraiment sous l'inspiration divine. Alors que Matthieu, Marc, Luc, Jean ont écrit leur évangile sous l'inspiration divine. Voilà pourquoi il n'y a pas de contradiction. Voilà pourquoi chacun des quatre évangiles raconte l'histoire réelle du Christ. Si il y a parfois des petites contradictions, même pas des contradictions, des contradictions apparentes. C'est la façon de les lire, d'interpréter ce qu'il ne faut pas faire. Et ensuite, la façon de comprendre qui met l'accent sur quoi. Par exemple, Jean. L'apôtre Jean met l'accent sur la divinité du Christ. Il commence son évangile en disant qui est le Christ, spirituellement parlant. Il dit au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Les trois autres évangélistes, Matthieu, Marc, Luc, ils ne disent pas ça. Pourquoi? Parce qu'eux, ils mettent l'accent sur le côté humain du Christ. Il n'y a pas de contradiction. Matthieu raconte certaines phases de ce qu'il a vu, de ce qu'il a entendu, parce qu'il était avec le Christ, tandis que Marc n'a jamais été avec le Christ. Marc accompagnait Pierre. Donc, il a écrit son évangile inspiré par ce que l'apôtre Pierre lui a dit. Il était avec Pierre. Quant à Luc, il n'était même pas avec Pierre ou n'importe qui. Il était surtout avec l'apôtre Paul. L'apôtre Paul l'appelle son compagnon. Donc, ce que Luc a écrit, c'est surtout parce qu'il a entendu par les autres apôtres, certes, mais surtout ce qu'il a entendu par Paul, ce qu'il a appris par Paul, et il y a plus, ce qu'il a fait en tant que recherche. Alors, aujourd'hui, j'avais presque l'envie de parler de ces quatre évangiles, mais ce n'est pas mon sujet. Je voudrais vous expliquer que parfois, en prenant la Bible, en étudiant la Bible, on peut prendre un chapitre comme j'ai fait par le passé, et avec ce chapitre, on peut presque comprendre tout le plan divin. Rappelez-vous, chaque évangile ajoute quelque chose, rapporte quelque chose, mais ne contredit pas les autres évangélistes. Une fois que vous avez ça en tête, ne cherchez pas des contradictions, il n'y en a pas. Prenez par exemple le lavement des pieds. Pourquoi est-ce que Matthieu, Marc, Luc n'en parlent pas? L'apôtre Jean est le seul qui parle du lavement des pieds le jour de la Pâque. Bon, et prenez maintenant Luc, par exemple, l'enfant prodigue. L'enfant prodigue est une parabole, et Christ a dit beaucoup de paraboles, et cette parabole se trouve dans les quatre évangiles. Mais il n'y a que Luc qui parle de l'enfant prodigue. Alors, pourquoi? Là encore, je répète, c'est ce que chaque évangéliste met l'accent sur l'accent qu'il met, sur ce qu'il entend, et ensuite, comment chaque évangéliste vous présente ce qu'il a entendu de façon à ce que vous puissiez comprendre la parole de Dieu, la volonté de Dieu et être sur le chemin qui conduit à la vie éternelle. Alors, nous avons maintenant établi cette base, revenons à Luc. Car mon intention, c'est de prendre un chapitre dans l'Évangile selon Luc et d'en parler. Vous direz pourquoi Luc? Eh bien, une autre occasion, je ferai Matthieu. J'en ai fait, je pense, par le passé plusieurs fois sur Jean. Alors, Luc était un compagnon de l'apôtre Paul. C'est ce que vous pouvez voir dans Colossiens chapitre 4, verset 4 à 14, où il est marqué aussi que Luc était un médecin. Un médecin? Ah oui. De profession, c'était un médecin, un bon médecin, je suis sûr. On n'a qu'à le lire, la Bible dit, Paul le dit, puisque Paul a été son compagnon, que Luc, le médecin, Colossiens chapitre 4, verset 14. Bon, ensuite, Luc était un compagnon donc, de Paul, et il a fait des recherches. Certes, chaque personne fait des recherches sur une histoire quelconque, mais ce que Luc a fait, laissez-moi d'abord commencer par ce que lui-même dit, parce que ça vaut la peine. Autrement dit, ce n'est pas quelque chose qu'il a pris à la légère. Il a fait des études profondes. Il a cherché tous les détails. Il a prouvé et éprouvé toutes choses. Comme nous disons nous-mêmes, prouver toutes choses. L'apôtre Paul a dit prouver toutes choses. Donc, Luc, avant d'écrire son évangile, a fait des recherches fantastiques. Il a prouver toute chose. Notez-le. Luc, chapitre 1, verset 1. C'est lui qui écrit. Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires, parce que je répète, Luc n'était pas un oculaire témoin. Il n'était pas l'un des disciples pendant 3 ans et demi vivant à côté de lui. Donc, il a été avec les témoins oculaires, mais il n'était pas lui-même. Des ministres, dit-il, de la parole. Il m'a aussi semblé bon, c'est Luc qui écrit, après avoir fait des recherches exactes. Voyez-vous, ce n'est pas à peu près des recherches exactes sur toutes ces choses. Autrement dit, tout ce que vous entendez de l'Évangile, l'apôtre Luc, mettons, a fait des recherches fantastiques pour être sûr que ce qu'il rapporte, c'est exactement la vérité, comme les choses se sont passées. De les exposer, dit-il, verset 3, de les exposer par écrit d'une manière suivie, excellente Théophile. Donc, il adresse cette lettre à Théophile. Nous ne savons pas qui est Théophile. C'est un bienfaiteur peut-être, je ne sais pas, mais continuons. Afin que, dit-il, tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Théophile devait être quelqu'un qui était proche de Dieu. Du reste, moi, Théophile, c'est intéressant parce que si vous analysez le sens étymologique, Théo, c'est Dieu, Phil, c'est ami, ami de Dieu, amour de Dieu, si vous voulez. Mais voyez-vous, donc, déjà, le mot Théophile montre que cet individu s'intéressait à la vérité et Luc s'adresse à cet individu et il dit, voilà maintenant les résultats de mes recherches. Rappelez-vous, il a fait des recherches, en plus il a été avec l'apôtre Paul et les deux ont coopéré ensemble. Alors, ce que Luc écrit, c'est la pure vérité. Il y a plus. Voyez-vous, il y a certes l'inspiration divine. Dieu a inspiré la parole de Dieu. Dieu a inspiré Luc à écrire cet évangile. Mais il y a plus. Vous pouvez dire, mais c'est quoi? Regardez voir, prenez le livre des Actes. Le livre des Actes, comme l'évangile selon Luc, commence par quelque chose qui ressemble beaucoup à ce que vous avez vu dans l'évangile selon Luc au commencement. Notez-le, parce que c'est le même moteur. même les érudits de la Bible savent que Luc a écrit aussi les actes. C'est celui qui les a composés. Alors, évidemment, en partie, parce qu'il y a aussi les apôtres qui ont contribué, mais Luc lui-même a été l'auteur de ces actes d'une façon à ce que les choses qui se suivent puissent être expliquées aux chrétiens, afin que les chrétiens croient. Il dit, Théophile, dit-il, acte chapitre 1, verset 1, j'ai parlé, dit-il, dans mon premier livre, voilà, ce premier livre, c'est l'évangile selon Luc. Tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner, dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel. Voilà, donc l'évangile selon Luc vous donne la vie du Christ dès le commencement jusqu'au jour où il a été enlevé au ciel qui va suivre dans ce chapitre, dans les actes. Ensuite, dit-il, par le Saint-Esprit, aux apôtres qu'il avait choisis. Donc, on peut voir que les deux livres, l'évangile Luc, Actes, ont été écrits, composés, mis ensemble par cet évangéliste Luc, qui lui a fait des recherches fantastiques. C'est aussi intéressant, je ne veux pas mettre l'accent, je répète, mais Luc présente des choses d'une façon un peu intéressante. Il parle surtout de la mère de Jésus, plus que les autres. Il parle de Marie, il parle de la mission des femmes, si vous voulez. C'est le plus long des quatre évangiles, le livre de Luc. Ensuite, il met l'accent sur l'adolescence du Christ. Les trois autres évangélistes ne mettent pas l'accent sur l'adolescence du Christ. Ils en parlent. Mais ensuite, Luc a donné pas mal de paraboles. Je dirais même que plus que les autres apôtres. Mais le fait est que les paraboles de Luc sont uniques, je dirais. Autrement dit, prenez, comme je viens de dire, la parabole de l'enfant prodigue. Vous ne la trouvez pas ailleurs. Il n'y a que Luc qui en parle. Dans Luc 15, par exemple. Et aussi, Luc fait quelque chose qui est extrêmement intéressant. Luc parle de la mission des évangélistes ou bien des disciples du Christ. Ce n'est pas mon sujet, mais Luc, chapitre 10, là, vous pouvez voir décrit la mission des chrétiens, des disciples du Christ. Ça, tout ça, c'est pour vous donner un petit exemple. Maintenant, prenons, comme j'ai dit dans ce livre-là, un seul chapitre, Luc 14. Pourquoi direz-vous les 14? J'aurais pu prendre Luc 13, Luc 15, mais Luc 14 m'intéresse énormément, surtout à l'heure actuelle, parce que dans ce chapitre, il y a, à moins que je me trompe, trois points importants. Non, cinq points importants. Le premier commence par la guérison que le Christ a faite le jour du sabbat. J'en parlerai dans quelques instants. Ensuite, le Christ parle de l'humilité dans ce même chapitre. Il dit, lorsque vous êtes invité, ne prenez pas la première place pour être vu des hommes. Ensuite, le Christ parle, toujours dans ce même chapitre, des pauvres, notre attitude envers les pauvres. Ensuite, le Christ entre dans un sujet, toujours dans ce même chapitre, Luc 14, d'un sujet qui est mystérieux aux yeux de beaucoup de chrétiens, c'est le grand repas, le repas des noces. C'est quoi ça, direz-vous? J'en parlerai dans quelques instants. Finalement, Luc parle dans Luc 14 de la mission des disciples du Christ et comment être vraiment disciple du Christ. Donc ça, c'est le résumé en quelque sorte. Une fois que vous avez ça, prenons, si c'est possible, peut-être même verset par verset, Luc 14. C'est très intéressant. De temps en temps, je ferai des détours comme c'est mon habitude. Voyez-vous, ce qui est intéressant avec le Christ, avec les disciples, c'est que à travers le ministère du Christ, les pharisiens, les sadducéens, tâchaient de piéger le Christ, tâchaient de trouver quelque chose en lui qui ne serait pas juste, qu'on pourrait à la rigueur le condamner. Et souvent, les gens, ces gens-là, lui ont posé des questions. Est-il permis? Est-il permis? Vous savez, on n'en finit pas. Le Christ savait. Il a répondu à leurs questions. Et dans Luc 14, c'est intéressant parce que lui-même pose une question. Comme je dis souvent, c'était les autres qui lui posaient des questions. Mais dans Luc 14, le Christ lui-même une question. Vous direz pourquoi? Notez-le. Jésus étant donc entré dans la maison de chef pharisien le jour du sabbat pour prendre un repas, voilà, automatiquement déjà il sera condamné. Tiens, il va avec les pharisiens, il va manger avec eux. Autrement dit, tout ce que le Christ a dit, a fait, c'était un sujet de condamnation. Mais enfin, il entre avec eux, il va prendre un repas, les gens l'observent, voyez, ils observent chaque mouvement, et voici un homme hydropique était devant lui, le jour du sabbat. Le Christ, vous savez, c'est intéressant parce que lorsque vous lisez la Bible, lisez-la un peu avec un peu d'humour. Parce qu'on peut voir que le Christ savait l'attitude des gens, il connaissait, il savait exactement qu'on allait le critiquer quoi qu'il fasse. Alors, vous pouvez voir le Christ s'attendre à ce que les gens se demandent qu'est-ce qu'il va faire. Voilà un homme hydropique, et le jour du sabbat, est-ce que le Christ va-t-il vraiment le guérir? Parce qu'ils ont vu que durant la semaine, il faisait des guérisons. En fait, laissez-moi ouvrir une autre parenthèse. La plupart du temps, les guérisons que le Christ a faites, selon les évangélistes, étaient un jour de sabbat. Et aussi, la plupart du temps, les gens le condamnaient parce que, à leur avis, il transgressait le jour du sabbat. Voilà, ayant ça en tête, regardez maintenant comment le Christ agit. Verset 3, Luc 3, Jésus prit la parole, voyez-vous. Il voit l'homme malade, hydropique, c'est Jésus qui prend la parole, les gens l'observent, et il dit au docteur de la loi, c'est intéressant parce que les pharisiens étaient des docteurs de la loi, ils connaissaient la loi. Mais à quoi bon connaître la loi si vous ne la mettez pas en pratique? Alors, il dit aux pharisiens, il leur pose une question, est-il permis ou non de faire une guérison le jour du sabbat? C'est le Christ qui parle. Il fait exprès. Maintenant, c'est lui qui pose une question à ces gens-là, les docteurs de la loi. Évidemment, vous pouvez voir leur confusion. Lorsque vous êtes confus, qu'est-ce que vous faites? Parfois, vous vous plaignez, parfois, vous gardez le silence. Eux, ils gardaient le silence parce qu'ils ne savaient pas que dire. Parce que quoi qu'ils disent, ils se seraient condamnés eux-mêmes. Alors le Christ, observant leur silence, il avança vers ses 4, la main sur cet homme. Là encore, que signifie avancer la main sur cet homme? Il l'a oint. Selon la Bible, lorsque vous oignez un malade, vous lui imposez les mains. Ensuite avec l'huile d'olive. Mais ici donc, le Christ lui imposa la main. Ailleurs, il aurait pu faire autrement, il a fait ailleurs des guérisons sans imposer les mains aux malades. Mais voyez-vous, ça encore, ce sont des phases que chaque évangéliste donne, selon le cas, selon ce qu'ils ont vu. Le Christ a parfois guéri en imposant les mains, parfois en une seule parole. Ici, devant ses témoins, il, donc Wayne, impose les mains, et l'homme était guéri. Et il le renvoya, donc cet homme chez lui. Puis il leur dit, parce que voyez-vous, les pharisiens, tout ça, ils étaient à bouche-pée, ils ne savaient pas que dire. Ils voient l'homme guéri, ils voient le Christ, donc les interroger. Alors, encore une fois, le Christ prend la parole, en voyant ces gens tout à fait confus, dit, lequel de vous, verset 5, si son fils ou son bœuf, il prend deux exemples un peu exagérés, pour ainsi dire, tombe dans un puits, ne l'en retirera pas aussitôt le jour du sabbat. Voyez-vous, les questions que le Christ pose, les gens ne savent pas comment répondre. Et c'est ce qui s'est passé. La première fois, ils ne savaient pas que dire. À nouveau, Luc dit, et il ne put rien répondre. Voyez-vous, c'est comme ça qu'on lit la Bible. Vous pouvez voir comment le Christ prend un sujet et chacun doit se taire parce que c'est presque comme un jeu d'échecs, check et mat. Échec et mat, c'est fini. Alors, ça c'est une partie de l'histoire seulement. Cette histoire, c'est pour vous montrer que le jour du sabbat, on peut faire ce qui est juste, ce qui est bon. Dans la loi, on doit toujours faire du bien. Et ce genre de choses, du reste, ce n'est pas un travail. Mais enfin, ça, ce n'est pas mon sujet à nouveau. Je vais prendre Luc 14 pour vous montrer les points saillants dans ce chapitre-là. Tout d'un coup, maintenant, ça change. Du verset 7 au verset 11, il y a une nouvelle tournure. Il y a, parce que les pharisiens étaient des hypocrites. Savez-vous ce que c'est qu'un hypocrite? Il dit une chose, il fait quelque chose d'autre. Autrement dit, ce n'est pas un homme sincère. Ce n'est pas un individu qui dit la vérité totale. C'est pourquoi le Christ, il était avec les pharisiens, rappelez-vous, il adressa, dit-il ensuite, une parabole. Il était avec les pharisiens qui étaient des hypocrites, bien connus. Une parabole aux conviés, en voyant qu'ils choisissaient les premières places. Là encore, pourquoi les premières places? Ces gens étaient orgueilleux, ils voulaient se faire montrer. Écoutez, mes frères et mes sœurs, si vous voulez vraiment être bien vu de Dieu, mettez-vous à la dernière place. Cachez-vous parce que personne n'est digne. Certes, dans l'Église, parfois, les ministres sont assis au devant parce qu'ils ont une mission, il faut qu'ils prêchent. Mais d'une façon générale, nous tous, ministres ou autres, lorsque nous sommes invités, nous devons nous mettre à la dernière place. Et le Christ explique. Ça, c'est l'humilité. L'humilité, je répète, est la base même de la véritable conversion chrétienne. Regardez comment le Christ explique cela. Il adressa, dit-il ensuite, une parabole aux places, en voyant qu'ils choisissaient, eux, les premières places, les hypocrites. Il leur dit, lorsque tu seras invité, verset 8, par quelqu'un, à des noces, ne te mets pas à la première place. Pourquoi? Il explique, de peur, dit-il, qu'il n'y ait parmi les autres invités une personne plus considérable que toi, et que celui qui t'a invité ou que vous a invité, l'un l'autre, ne vienne te dire « cède ta place à cette autre personne ». Voyez-vous ? Là, alors, vous aurez le visage rouge. Mais dit-il, lorsque tu seras invité, va te mettre à la dernière place. Pourquoi ? Parce que, afin que, dit-il, celui qui t'a invité vient te dire « mon ami, monte plus haut ». Alors, dit-il, cela te fera honneur devant tout le monde. Et là encore, je m'arrête ici. Si vous devez être honoré, soyez-le par Dieu lui-même. Si Dieu vous honore, alors la place que vous occupez sera vraiment récompensée par lui. Plus vous êtes humble, je le répète, plus vous aurez une place honorable dans son royaume. Le christianisme est basé sur l'humilité. Si vous aimez votre prochain comme vous-même, si vous aidez votre prochain, si vous faites tout ce que vous pouvez faire, et si vous vous considérez moindre que lui, alors vous faites preuve d'humilité. Je continue. Ce sont des grandes lignes que je vous montre ici. Il dit, car dit-il, verset 11, quiconque s'élève, voilà une vérité de base, sera abaissé et quiconque s'abaisse sera élevé. Mes frères et mes sœurs, rappelez-vous cette recommandation divine. Voyez-vous, Luc ici, dans cette parabole, vous a déjà montré plusieurs choses, la guérison le jour du sabbat, ou bien le fait de s'enorgueillir. Comment se mettre la dernière place afin que, lorsque le moment viendra, vous serez honoré. Ceci a double sens. Dans le royaume de Dieu, ceux qui ont vécu ici-bas et qui ont fait vraiment preuve d'une attitude fantastique seront élevés. Moi, j'ai toujours dit, et je répète, en toute franchise, je connais des gens dans l'Église de Dieu, parce que je suis dans l'Église depuis près de 50 ans, qui ne sont pas ministres, qui ne prêchent pas, qui n'ont pas prêché l'Évangile comme je fais, qui n'ont pas des articles, écrit des articles comme j'ai fait, qui n'ont pas peut-être fait des sermons comme j'ai fait. Et pourtant, ce sont des gens lesquels, à mon avis, sont de loin supérieurs à moi. Ils n'avaient pas beaucoup d'éducation, beaucoup d'instruction, mais il fallait voir leur attitude. Des gens simples, des gens humbles. Ces gens-là, dans le royaume, comme Christ a dit, ils auront les premières places, ils seront honorés. Dieu voit les choses, Dieu récompense les choses. Donc si vous pensez que les hommes autour de vous, ou votre patron, ou vos amis, je sais, ne vous respectent pas, si vous êtes vraiment respectable, si vous faites un travail respectable, laissez Dieu agir. Laissez Dieu être votre juge. Si Dieu le sait, c'est tout ce qui compte. Ce faisant, voyez-vous, vous serez récompensé. Donc ça, c'est la deuxième partie dans ce chapitre. D'abord, la guérison le jour du sabbat. Ensuite, choisir donc la dernière place. Et ensuite, le Christ, la troisième partie, entre toujours dans le même sujet d'une façon différente. Maintenant, puisqu'on parle d'invités, puisqu'on parle de d'être avec les gens, il dit au verset 14 au 12, il dit aussi à celui qui l'avait invité, attendez, c'est le pharisien qui l'a invité, le Christ, il dit au pharisien, lorsque tu donnes à dîner ou à souper, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni tes voisins riches, de peur qu'ils ne t'invitent à leur tour. Voyez-vous, là encore, tâchez de comprendre. Le Christ n'a pas dit, il ne faut pas inviter nos amis, non. Il ne faut pas inviter nos frères, nos sœurs, nos parents, non. Il prend ici un exemple. Il dit, si tu invites des gens qui te sont proches, il y a un danger, parce que tu attends à ce qu'eux, ils rendent aussi le pareil à toi. C'est ça le problème. N'invitez pas quelqu'un parce que vous savez qu'il peut aussi vous inviter à son tour. Ne faites pas du bien à quelqu'un parce que vous savez que lui, il est capable de faire du bien aussi à vous. Non, que vos actes ou bienfaisance de bienfaisance soient faits en cachette. Autrement dit, vous faites parce que vous voulez le faire, parce que vous êtes chrétien, que l'autre puisse vous rendre le pareil ou non, ça n'a pas d'importance. Ça, encore une fois, ça montre l'attitude chrétienne. À quoi bon, voyez-vous, il y a beaucoup de gens qui sont des bienfaiteurs en ce moment. D'accord. Vous pouvez donner 10 000, 100 000 euros. Oui, d'accord. Mais si vous êtes très riche déjà, et si vous donnez ces 100 000 euros, mettons, parce que votre nom sera dans les journaux, à quoi bon? Ce n'est pas pour cette raison que vous donnez les 100 000 euros à une compagnie, à une société, je sais. Ce qui compte, si vous voulez vraiment plaire à Dieu, faites le bien tout en étant caché aux yeux des autres. Je me rappelle une dame, il y a longtemps, au collège où je travaillais, écoutait chaque samedi les sermons que les ministres disaient, et lorsqu'il entendait dans un sermon qu'il y avait quelqu'un qui avait besoin d'aide, ou bien de nourriture, parce que cet individu était pauvre, mettons, elle entendait, et en cachette, elle allait acheter des provisions, elle les mettait au seuil de la porte, sans se faire connaître, et disparaissait. Autrement dit, elle faisait du bien, non pas parce qu'elle voulait être vue, mais elle voulait vraiment aider. Ça, c'est l'attitude dont le Christ parle. Donc faites du bien, non pas pour être récompensé, non. Car Dieu vous récompensera toujours. Vous aurez toujours votre récompense. Laissez Dieu agir. Je continue. De peur quelqu'un viendra de retour. Et quand on le rend de l'appareil, mais dit-il, verset 13, voilà, encore une fois, il vous donne la réponse, mais dit-il, lorsque tu donnes un festin, invite les pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles, autrement dit, des gens qui ne sont pas capables de te rendre l'appareil. Et tu seras, dit-il, heureux de ceux qui ne peuvent pas te rendre l'appareil. Pourquoi ? Une fois encore, pour ne pas s'enorgueillir, pour ne pas agir par vanité, et pour agir en tant que chrétien, on donne parce que c'est chrétien. On donne parce que nous aimons notre prochain comme nous-mêmes. Vous direz, et alors ? Où sera notre récompense ? Vous savez, ça c'est humain. Dans toute chose, nous voulons quand même être récompensés. Alors, qu'est-ce qu'il y a pour moi ? Le Christ, une fois encore, répond. Il dit, car, dit-il, elle te sera rendue à la résurrection des justes. C'est ce que je viens de dire en ce qui concerne. J'ai vu certaines personnes dans ma vie et j'ai vu leurs actes en ce bas monde. Et je sais que à la résurrection des justes, ils seront mieux placés que certains d'entre nous, y compris moi. Parce que c'est des gens qui ont agi avec une sincérité de cœur. Voilà comment on peut étudier la Bible. Voyez-vous, j'ai pris ce Luc 14, je prends des points saillants. Nous avons vu jusqu'à maintenant la guérison du jour du sabbat. Nous avons vu, lorsqu'on t'invite, mets-toi à la place d'humilité. Ensuite, lorsque tu invites des gens, lorsque tu fais quelque chose, ne fais pas pour parce que les autres peuvent aussi te rendre l'appareil, mais parce qu'ils ne peuvent pas le faire. Ils ne peuvent pas t'inviter à leur tour. Donc, comme vous pouvez voir, jusqu'à maintenant, nous avons eu des vérités très, très importantes, de base même, dans un chapitre qui explique certaines choses. Ensuite, tout d'un coup, le Christ entre dans un sujet tout à fait nouveau. Nouveau et pourtant pas. Parce que c'est pourquoi j'ai pris ce chapitre, parce que dans ce chapitre, tout d'un coup, le Christ explique quelque chose que la plus grande partie des chrétiens aujourd'hui ignorent. Laissez-moi d'abord vous poser la question. Êtes-vous sûr que le Christ reviendra? Si oui, quelle preuve avez-vous? Certes, vous pouvez voir ce qui se passe autour de vous, d'accord. Vous pouvez voir cette corruption, d'accord, ces guerres, d'accord. Mais ça, ce n'est pas suffisant. Montre-moi dans la Bible une certitude que le Christ viendra. Parce que ce qui compte, c'est ce que le Christ a dit, ce que la Bible révèle. Eh bien, vous savez fort bien, prenez Matthieu 24. Les propres paroles du Christ, il était sur la montagne des Oliviers. Les disciples lui ont dit, « Quel sera le signe de ton avènement ?» Il parlait de son retour. Matthieu 24, je ne veux pas me référer directement. Alors le Christ a dit, « Méfiez-vous. » Ensuite, il raconte tout ce qui va se passer avant son retour. Le Christ a parlé de son retour. Et ce qui va se passer avant son retour. Donc là, j'ai la certitude, lorsque je lis Matthieu 24, que le Christ reviendra. Et pourtant, aujourd'hui, regardez voir, la plupart des chrétiens n'y croient pas ou bien n'en sont pas sûrs. Voilà où nous en sommes. Voilà pourquoi les gens ne comprennent pas la Bible. Ici, Luc, dans Luc 14, ne parle pas vraiment du retour du Christ directement, ce n'est pas ça son sujet, mais il fait allusion au retour du Christ et il explique ça d'une façon tout à fait différente. Notez-le. Parce que là encore, nous savons que lorsque le Christ viendra, il ramassera ou bien il accueillera tous ses disciples. Il y a un grand banquet, la Bible appelle le banquet de noces, ou bien le repas de noces. Tout d'un coup ici, dans Luc 14, Luc entre dans ce chapitre, dans ce sujet. Regardez ce qu'il dit. D'abord, l'introduction de ceux qui étaient verset 15, à table avec lui, après avoir entendu ses paroles, il a dit, « Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. » Voilà le repas dont on parle. Donc, autour du Christ, il y aura ce repas de noces. Et le Christ a dit, un homme donnera un grand souper. Maintenant, le Christ prend cette déclaration de l'homme. Tout d'un coup, il la compare à ce qui va se passer lorsque le Christ reviendra avoir ou prendre son repas avec ceux qui étaient invités. Qui sont ceux qui sont invités? Ceux qui sont invités aujourd'hui sont ceux dont les yeux sont ouverts, qui comprennent cette vérité, qui étudient la Bible et qui font leur part. Mes frères et mes sœurs, votre devoir, c'est de servir. Vous avez été appelés pour servir et non pas pour vous enorgueillir. Et non pas pour dire, « Oh, je suis parmi les peu qui ont été choisis à l'heure actuelle. » Si c'est ça votre attitude, votre appel est vain. Oui, vous n'êtes pas vraiment appelé. Si vous avez été appelé pour servir, oui. Pour vous glorifier, non. Le Christ a aujourd'hui à son Église. Son Église se compose de ceux qui ont été appelés pour préparer le chemin du retour du Christ. C'est ça la raison pour laquelle le Christ a appelé les disciples dans son Église. C'est notre mission. Nous ne sommes pas meilleurs et de loin que les autres. Nous ne sommes pas plus intelligents, plus beaux, plus grands, plus riches. Au contraire, nous sommes les plus pauvres. Nous sommes les moindres. Mais nous avons une mission. Cette mission doit être accomplie par l'aide de Dieu, par l'Esprit de Dieu. Et si nous faisons notre part, notre récompense sera grande au ciel. Commencez-vous à comprendre? Alors, si vous êtes parmi ce groupe, appelé pour être, pour participer aux noces de Christ, quelle est votre attitude? Voilà pourquoi le Christ, tout d'un coup, entre dans ce sujet. Il dit, un homme, dit-il, donna un grand souper. Il parle maintenant en parabole. Luc, souvent, remet les choses sous forme de parabole. Il parle du royaume de Christ sous forme de parabole. Il parle de cette noce sous forme de parabole. Il dit, il invita, dit-il, il donna un grand souper. Il invita beaucoup de gens. À l'heure du souper, autrement dit, lorsque le moment arrive, qu'est-ce qui se passe? Il envoya son serviteur aux conviés, les prophètes de Dieu, ce que Dieu appelle, donc nous font savoir que c'est l'heure du repos, ça c'est, je paraphrase maintenant, il envoya donc dire, venez, car tout est prêt. Mais tous, unanimement, se mirent à s'excuser, voilà. D'accord, vous voyez, je peux ouvrir tout un chapitre. J'ai vu tellement de gens, lors de mon ministère, qui comprennent, enfin, comprennent entre guillemets, qui entendent la vérité, qui entendent ce que je dis, qui entendent ce que Dieu dit dans la Bible, mais ils ont des excuses. Au moins, je ne peux pas observer le sabbat, donc je ne peux pas être chrétien. Moi, je vais me marier avec n'importe qui, je ne sais pas quoi, donc je ne vais pas être chrétien. Moi, j'ai un travail important, c'est plus important que le fait d'être chrétien, ainsi de suite. Donc, des excuses, on n'en finit pas. Mais ces excuses vous tiendront loin du royaume de Dieu. C'est cela dont le Christ parle ici dans ce chapitre. Donc, ceux qui étaient invités se mirent à s'excuser. Vous savez, mes frères et mes sœurs, j'ai souvent dit et je répète, la chose la plus facile au monde, c'est de trouver des excuses. Personne, je dirais, sera sans excuse parce que tout le monde peut trouver une excuse. S'il n'en trouve pas, il dira, bon, et c'est la faute aux autres. Vous pouvez toujours mettre la faute sur quelqu'un d'autre. Voilà une excuse. Vous savez fort bien, il est facile de blâmer quelqu'un d'autre pour vos fautes à vous. Donc, les excuses ne valent rien. Et pourtant, ce que le Christ a appelé pour servir, voilà qu'il se met à s'excuser. Il y a trois excuses ici que vous verrez. Laissez-moi d'abord lire. Le premier dit, j'ai acheté un champ, je suis obligé d'aller voir, excuse-moi. Autrement dit, vous avez un commerce, vous avez une affaire, vous êtes très occupé. Cette noce ne vous inquiète. Ne vous intéresse pas beaucoup. Parce que vous ne voyez pas la réalité, l'importance, vous négligez. Donc, il s'excuse pour son travail, pour sa procession. Un autre dit, je viens de me marier. C'est pourquoi, dit-il, je ne peux pas aller. C'est intéressant. Voilà des excuses qu'on cherche pour ne pas être en os que le Christ a préparé pour nous. Donc, des excuses là, personnelles si vous voulez. Un autre dit, le serviteur dit-il, un autre apporta, attendez voir aussi, oui, je viens de me marier, c'est pourquoi je ne peux pas aller. Le serviteur rapporta donc toutes ces choses au Christ. Et qu'est-ce qui se passe? Alors le Christ, le maître de la maison, dit, va promptement dans les places publiques, dans les rues, les villes, etc., ramasse les pauvres, les estropiés, va encore ceux qui n'ont pas les moyens de comprendre, mettons, les aveugles, les boiteux. Le serviteur va, il fait de même, verset 22, 23, il dit, il y a encore la place. Et le Christ dit, au verset 23, va le long des chemins. Et tu trouveras, contrains-les dans les invités afin que ma maison soit remplie. Je m'arrête ici. Alors, là, voyez-vous, il y a une vérité qui sort, il faut absolument que vous sachiez. Quelle est la signification de cette instruction du Christ? Autrement dit, si ceux qui ont été invités n'acceptent pas, est-ce que le Christ ouvre les portes, ramasse tout le monde? Au premier abord, c'est l'impression que nous avons. Mais lorsque vous lisez la Bible, mettez les choses ensemble. Il n'y a pas de contradiction. Si vous lisez ceci séparément des autres, il y aura une contradiction. Le but de la vie, c'est que nous soyons convertis. Cette conversion, comme je vous ai toujours dit, se fait lorsque vous vous repentez de vos péchés, vous faites baptiser en tant qu'adulte, et ensuite, vous recevez le Saint-Esprit, et dès ce moment-là, donc, vous faites partie des élus. Ici, tout d'un coup, lorsque vous voyez ça, vous dites, tiens, on n'a pas besoin donc de se repentir, on n'a pas besoin d'observer les lois, on n'a pas besoin, on n'a qu'à être parmi les estropiés et les pauvres, on sera invité en os. Voyez-vous ce qu'il attend? Non. Il faut mettre les choses ensemble. Je m'arrête ici pour un instant. Laissez-moi faire un détour et revenir à Matthieu. Matthieu chapitre 22. J'ai dit, mettez les sujets ensemble, les différents chapitres ensemble, les quatre évangiles ensemble, vous comprendrez la vérité. À Matthieu 22, il parle de la même façon, mais d'une façon différente. Il parle de la même, du même sujet, mais d'une façon différente. Il dit, Jésus prenant la parole, Matthieu 22, leur dit de nouveau en parabole, le royaume des cieux, voilà, on parle du royaume de Dieu, le royaume des cieux, est semblable à un roi, c'est ce que nous avons vu, qui fit des noces pour son fils. Il envoya donc ses serviteurs, son fils. Ici, voyez-vous, il est question du Christ et de son Père. C'est tout en parabole. Et le Christ envoie, afin que lorsque le Christ viendra pour ses noces, pour que les invités viennent, il envoya donc aux serviteurs appeler ceux qui étaient invités en noces. C'est ce que nous avons vu dans Luc. Mais ils ne voulurent pas. Voyez-vous, chacun, Matthieu, parle d'une façon un peu différente, mais c'est la même chose. Et Luc, de même, mais chacun ajoute quelque chose d'intéressant. Alors, le maître de la maison envoya encore d'autres serviteurs en disant, dites aux invités, aux conviés, j'ai préparé mon festin, mes bœufs, mes bêtes grasses sont tuées, tout est prêt, venez, venez en os. C'est le Christ qui parle. Il veut que nous soyons dans son royaume, parce que Dieu veut que tous soient sauvés en fin de compte. Mais pour le moment, ce sont ceux qui ont, d'abord, qui sont invités pour préparer le chemin afin que ces noces aient lieu, pour que plus tard tous soient sauvés. Mais ça, c'est un autre sujet. Alors, qu'est-ce qui se passe? Mais chacun avait des excuses. Sans s'inquiéter donc de l'invitation Ces gens s'en allèrent, celui-ci à son chemin, celui-là à son trafic, c'est ce que nous avons vu dans Luc, et d'autres se saisirent de ses serviteurs et les outragèrent. Le roi fut irrité, c'est comme, je dis, c'est la même histoire que Luc raconte, mais d'une façon différente un peu. Alors le roi fut irrité, il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers. Ensuite, il brûla leur ville. Alors il dit, les noces sont prêtes, verset 8, mais les conviés, peut-être vous et moi, n'en étaient pas dignes. Allez donc, dit-il, dans les carrefours, c'est ce que nous avons vu, appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Voilà, c'est pourquoi je prends ce sujet, voyez-vous. Alors vous direz, tiens, maintenant que ceux qui sont appelés ne sont pas, n'ont pas accepté, donc la porte s'ouvre, tout le monde peut entrer maintenant sans obéir au Christ, sans observer ses commandements. Donc la porte s'ouvre, je suis sauvé une fois pour toutes. Voilà comment les gens lisent la Bible. Regardez la suite. Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent donc tous ceux qu'ils ont trouvés, méchants et bons. La salle fut pleine de conviés. Ensuite, le roi, ça c'est intéressant, voilà la clé. Le verset 11. Le roi entra pour voir ceux qui étaient là. Il aperçut un homme qui n'avait pas, quoi, revêtu un habit de noces. Mais voyons, ce sont des gens de rue. Ils ont été ramassés dans les rues, invités aux noces, vous dire comment voulez-vous qu'eux, ils portent des habits de noces. Tâchez de comprendre, voyez-vous, là, voilà la clé. Ce que Dieu appelle, il faut qu'ils mettent des habits de noces, c'est-à-dire être prêts, convertis, se faire baptiser, recevoir l'Esprit de Dieu. Ici, dans cette parabole, bien que tous soient invités, le Christ voit ceux qui n'étaient pas, qui ne s'étaient pas repentis, ou qui ne veulent pas se repentir. Les habits de noces ici représentent le fait de se repentir. Donc il voit un homme qui ne s'était pas repenti, qui n'avait pas mis les habits de noces, qui n'était pas prêt à prendre part à ce banquet. Dans cette parabole, vous pouvez voir que non, tous ne peuvent pas entrer parce que la porte est ouverte. Les conditions sont toujours valables pour tout le monde. Le repentir, se faire baptiser, recevoir le Saint-Esprit, croître dans la grâce et la connaissance. Ça, c'est l'habit de noces. Si vous ne l'avez pas, vous n'entrez pas. Vous ne serez pas présent aux noces que le Christ a préparées. Voyez-vous, lorsque vous mettez tout ça ensemble, vous pouvez vous faire comprendre. Laissez-moi finir cette phrase ici, parce que verset 12, Matthieu 20, verset 12, alors il dit donc, alors mon ami, comment es-tu entré sans avoir un habit de noces? Cet homme avait la bouche béée. Donc vous ne pouvez pas entrer, je répète. Parce que la porte est ouverte. Vous devez entrer avec les mêmes conditions que tous ceux qui doivent entrer dans le royaume. C'est-à-dire se soumettre à Dieu, faire sa volonté, agir en tant que chrétien, occuper la dernière place, être plein d'humilité, se sacrifier s'il le faut, ainsi de suite. Vous pouvez voir, maintenant revenons à Luc 14. Voilà pourquoi le Christ a dit, car je vous dis-t-il en vérité, verset 24, car je vous dis-t-il, aucun des hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon souper. Voyez-vous, mes frères et mes sœurs, je répète, Dieu veut que tous soient sauvés. Dieu nous a appelés à l'heure actuelle pour que nous puissions faire notre travail. Non pas, je répéterai, parce que nous sommes meilleurs, loin de là, mais parce que nous sommes disposés à servir. Si vous ne voulez pas servir, vous n'êtes pas chrétien. N'espérez même pas être chrétien. Plus tard, peut-être Dieu ouvrira vos yeux. Après cela, Donc voilà cette question du grand repas. Le grand repas, lequel, je répète, est votre conversion pour être présent aux noces du Christ et pour que, lors de la résurrection des morts, vous soyez parmi ceux qui sont transformés d'êtres physiques qu'ils sont en êtres spirituels qu'ils seront. Et tout comme dans le reste du chapitre, Matthieu 14, vient à cette conclusion. Voyez-vous, le Christ, c'était intéressant ce chapitre parce que c'est pourquoi je l'ai pris. Le Christ vous montre comment, tout d'un coup, après avoir expliqué tout ça, avoir l'habit de noces. Qu'est-ce que c'est que l'habit de noces? Comment changer? Comment faire partie de ceux qui étaient invités et d'accepter de remettre l'habit de noces? Verset 25, Luc 14. Parce que les gens écoutent le Christ, les gens entendent, il dit, le Christ voit la grande foule, il se retourne et dit, si quelqu'un vient à moi, voilà maintenant les conditions d'être sauvé, les conditions de faire partie de ceux qui sont dans la première résurrection. Tâchez de comprendre. Il dit, si quelqu'un vient à moi, verset 26, ne hait pas son père, sa mère, sa fille, ses enfants, ses frères, ses sœurs, même sa propre vie ne peut être mon disciple. Voilà. Voilà, la Bible se contredit. Comment est-ce que Dieu veut que je hais mes parents? Donc, je ne suis pas chrétien, je ne veux pas croire au Christ. Voilà que je ne peux pas vraiment croire à ce que l'apôtre Luc a dit. Non. Ce n'est pas du tout ça. Là, comprenez bien, la Bible n'a pas été écrite en français, ni en anglais, ni en allemand. Luc a écrit ici en grec, mais les autres parlent du même sujet. Prenez Matthieu chapitre 10. Matthieu fait allusion, fait la même remarque, mais il l'explique d'une façon différente. Matthieu chapitre 10. Pourquoi les pages sont difficiles à tourner. Voilà. Le Christ a dit, verset 17, Matthieu 10, 17, « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille n'est pas digne de moi. Celui donc qui préfère ses enfants n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix n'est pas digne de moi. » Voilà la signification de haïr son père ou sa mère. C'est une façon de parler. Donc, le mot « haïr » ici, c'est « aimer moins ». Si vous aimez quelqu'un d'autre plus que Dieu, vous n'êtes pas digne de Christ. J'ai parlé avant-hier à quelqu'un. Il était vraiment fâché. Il était fâché, je ne sais pas pourquoi, mais enfin, ça, ce n'est pas la question. Il pensait que Dieu est injuste. Écoutez, j'ai dit, faites Dieu agir. Laissez Dieu faire les choses. Si vous commencez à vous mettre à sa place, vous n'êtes pas digne du Christ. Quand vous parlez, vous aimez ce quelqu'un-là dont vous parlez, puisque Dieu, si injustice a été faite contre quelqu'un, laissez Dieu en prendre soin. Et c'est vrai. Si quelqu'un vous a fait un tort quelconque, laissez Dieu en prendre soin. Ne lui rendez pas l'appareil. C'est ça, cette leçon que nous voyons ici. Le Christ dit donc, si vous avez quelqu'un d'autre en tête et que vous le mettez avant moi, vous n'êtes pas digne de moi. Je vous pose la question, aimez-vous le Christ plus que vous aimez vos parents, votre femme, votre mari, vos enfants, n'importe. Aimez-vous le Christ plus que vos possessions matérielles, n'importe. Si tel est le cas, vous haïssez le Christ. Et vous ne serez pas dans le royaume. C'est ça, voyez-vous, l'idée, et c'est très clair. Ensuite, le Christ, pour terminer, il nous montre comment vraiment agir. Vous savez, mes frères et mes sœurs, comme j'ai dit, j'ai rencontré beaucoup de gens dans ma vie, lors de mon ministère. Il y a des gens qui cherchent la vérité à leur façon. Ils veulent être béni. Il veut être chrétien tout en faisant ce qu'ils font déjà et ne pas changer leur vie, mais être béni. Autrement dit, leur conversion est conditionnée. Le Christ, justement, parle de cela maintenant. Il dit, si vous voulez vraiment faire partie de ce premier groupe, eh bien, vous devez faire un choix, comme vous avez eu ici. S'il faut, tout laisser de côté, y compris les vôtres, et suivre le Christ. S'il le faut. La plupart du temps, vous n'avez pas besoin de faire ça, mais les gens, une fois encore, tordent les Écritures. On n'a pas besoin de se retirer du monde pour être chrétien. On n'a pas besoin de s'isoler du monde pour être chrétien. Pas du tout. On doit rester dans le monde, mais agir comme le Christ a agi. Toujours obéir à Dieu le Père, au commandement. S'il faut souffrir pour cela, on souffrira. Et ici, le Christ explique d'une façon très claire que si vous voulez vraiment être du groupe de ceux qui sont appelés, vous devez être prêt toujours à mettre le Christ ou Dieu avant toute personne, avant toute chose. Mais ce n'est pas facile. Là, je peux encore vous raconter des histoires sans fin. Vous savez, j'ai rencontré des gens sincères, vraiment sincères. Ils voulaient faire ce que Dieu voulait faire. Et ils avaient l'air de comprendre. Lorsque j'explique, ils comprenaient. Mais ils ne voulaient pas abandonner un certain travail. Ils ne voulaient pas abandonner un certain membre de la famille. Alors, ils n'ont pas pu être baptisés. Et le Christ, à la fin de ce chapitre, vous explique cela très clairement. Il dit, si vous êtes appelés, si vous voyez, vous entendez cette vérité, prenez le temps de calculer les dépenses. Pensez, réfléchissez. Ne sautez pas tout d'un coup dire, voilà, je veux être chrétien. Non, prenez le temps de réfléchir. Il dit, verset 28, Luc 14, « Lequel d'entre vous, dit-il, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pas, pour voir, et voilà encore, ce n'est pas comment il peut commencer, pour voir s'il a de quoi la terminer. » Beaucoup de gens ont de quoi pour commencer, mais n'ont pas la force, la foi, l'énergie, le désir de la terminer. Donc, voilà pourquoi, avant de vous faire baptiser, avant d'accepter cette vérité, asseyez-vous et demandez-vous si vous avez de quoi la terminer. Oui, réfléchissez. Si les choses allaient mal dans ma vie, serais-je encore chrétien? Si j'ai perdu tout ce que j'ai, serais-je encore chrétien? Et le Christ explique. Il dit, s'il y a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, dit-il, il ne puisse l'achever. Et que ceux qui le verront se mettent à le railler en disant, tiens, cet homme a commencé à bâtir et n'a pu achever. Il dit, ou quel roi, verset 31, s'il va faire la guerre, dit-il, à notre roi, ne s'attire pas d'abord pour voir s'il le peut, avec 10 000 hommes, marcher à l'encontre de notre roi qui a 20 000 hommes. S'il ne peut pas, donc, il envoie une ambassade, dit-il, pour faire la paix. Avant de terminer ce chapitre, laissez-moi expliquer ça d'une autre façon. Dieu vous appelle. Et vous n'êtes pas sûr. Franchement parlant, si vous n'êtes pas sûr, la seule façon, c'est de vous mettre à genoux, de jeûner, s'il le faut, et ensuite de demander à Dieu, écoute Dieu, veux-tu vraiment que je te serve? Ensuite, examinez-vous-même, êtes-vous disposé à abandonner tout ce que vous avez, s'il le faut? Je dis bien, s'il le faut. Abandonner, à vous séparer des amis, s'il le faut. Je dis bien, s'il le faut. À tout laisser de côté, s'il le faut. Si ce n'est pas le cas, ne vous dépêchez pas à vous faire baptiser. Ne vous dépêchez pas à dire, tiens, mais ce que vous devez faire, continuez à prier, continuez à jeûner, continuez à demander à Dieu, écoute Dieu, ouvre-moi l'esprit. Dieu vous ouvrira l'esprit et alors vous comprendrez. C'est pourquoi maintenant, laissez-moi m'arrêter ici et revenir à Matthieu. Matthieu chapitre 13. Le Christ explique cela d'une façon très claire. Et c'est avec cela que je voulais terminer donc ce sermon aujourd'hui. Dans Matthieu chapitre 13, il y a plusieurs paraboles. De petites paraboles, simples paraboles. Par exemple, au verset 14, Matthieu 13, verset 14, le Christ a dit « Le royaume des cieux ». Matthieu appelle des cieux, c'est le royaume de Dieu par les autres évangélistes. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché. Oui, parce que la plupart des gens aujourd'hui ne comprennent pas se cacher cette vérité. Dans un champ, l'homme qui l'a trouvé, dit-il, le cache, et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a, achète ce champ. C'est une parabole. La parabole ne dit pas tout, n'explique pas toutes les choses mot à mot. Donc, ici, le Christ nous montre que si nous voulons avoir ce trésor, la vérité, nous devons être prêts à tout vendre et acheter ce champ. Il continue. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche des belles perles. D'accord, en comparaison, mettons, le royaume de Dieu. Il a trouvé une perle de grand prix, l'évangile, la vérité, le salut. Il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. Tout ce que. C'est ça, voyez-vous, c'est ça l'idée. Avec Dieu, c'est tout ou rien. En fin de compte, vous recevrez tout. Mais il faut avoir cette attitude que s'il le faut, vous abandonnez tout. J'ai tellement vu, mes frères et mes sœurs, je répète, dans ma vie, des gens qui sont sincères, qui cherchent sincèrement, mais qui ne sont pas disposés à renoncer à ce qu'ils ont. À renoncer même à des amis s'il le faut. Si vous pouvez être un exemple, une lumière aux autres, il y a beaucoup de chances que ces autres verront le bien en vous par la présence du Christ et qu'eux-mêmes changeront leur attitude. Mais si vous abandonnez vous pour ne pas les perdre, vous les perdez et vous vous perdez vous-même. Commencez-vous à comprendre. Et maintenant, revenons à Luc 14 pour terminer. Après avoir expliqué cette vérité, que vous devez vraiment mettre Dieu avant toute personne, toute chose, il parle des chrétiens comme quelqu'un qui apporte de la saveur au monde. Encore dans Matthieu chapitre 5, le Christ a dit, vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. Et le Christ ici, d'après Luc, termine avec cet exemple. Le sel, dans le chrétien, en comparaison, est une bonne chose. S'il perd sa saveur, dit-il, avec quoi la lui rendra-t-on? Si vous avez perdu ce dévouement pour le Christ, avec quoi le remplacerez-vous? Comment est-ce que vous pouvez vraiment être un chrétien? Ce sera bon pour être jeté. Il n'est bon, dit-il, que pour le fumier. Et dit-il que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Eh bien, dans ce sermon, vous avez entendu comment être vraiment chrétien. S'il le faut, comment abandonner tout, suivre le chemin que le Christ a tracé devant nous. Comment vous vous comportez lorsque les choses vont se gâter et se gâteront. Et lorsque vous hésiterez à choisir entre Dieu et éviter les souffrances en ce bas monde. Vous savez, je pense de temps en temps à ce qui s'est passé durant la Deuxième Guerre mondiale, dans ces camps de concentration, ces holocaustes. Les gens ont vraiment dû souffrir énormément. Eh bien, les jours qui viennent devant nous, comme le Christ a dit dans Matthieu 24, sont pires. Eh bien, il ne faut pas que nous ayons nous peur d'affronter ces jours. Il faut que nous ayons les yeux sur le Christ, ayons foi en lui, sachant que Dieu nous guidera, nous aidera, nous protégera, et que nous soyons prêts pour ses noces. Autrement, à quoi bon de se dire chrétien? En tant que chrétien, mes frères et mes sœurs, Nous devons être disposés à tout abandonner s'il le faut. La plupart du temps, voyez-vous, on n'a pas besoin d'abandonner tout. C'est comme Abraham. Dieu a dit, va, sacrifie ton fils. Dieu ne voulait pas que Isaac soit sacrifié et qu'Abraham perde son fils. Mais Dieu a mis Abraham à l'épreuve. Et Abraham a montré par son exemple qu'il est disposé à obéir à Dieu, sachant que Dieu ne veut pas que nous commettions un meurtre. Ce genre de foi, ce genre d'assurance qui vous permettra d'entrer dans le royaume de Dieu. Relisez Luc chapitre 14 avec ça en tête. Et vous verrez comment le tout sera clair. Et vous verrez que ce faisant, les autres évangélistes ne contredisent pas ce que Luc dit ici, ou que la Bible elle-même ne se contredit pas. Car toute parole, comme l'apôtre Paul dit, a été écrite sous l'inspiration divine pour enseigner, pour corriger, pour nous conduire vers le royaume de Dieu.